Cinquième partie. Vents embrasés. Caladin, Shallan, Dalinar, Adolin, Malice. Chapitre 76. La lame cachée. Ils viendront, vous ne pouvez pas les empêcher de prêter serment, chercher ceux qui survivront lorsqu'ils ne devraient pas, ce motif sera votre indice. Extrait du diagramme. Coda du coin inférieur du nord-ouest. Paragraphe 3. Vous l'avez tué. Caladin ne pouvait pas dormir. Il savait qu'il aurait dû. Il était étendu sur un lit confortable pour la première fois depuis des jours, dans sa chambre obscure du baraquement, entouré de pierres familières. Un oreiller moelleux, un matelas d'aussi bonne qualité que celui qu'il avait possédé chez lui à Pierre-d'Âtre. Son corps se sentait essoré, comme une serpillière une fois le ménage terminé. Il avait survécu au gouffre et ramené Shallan chez elle, saine et sauve. À présent, il avait besoin de dormir et de guérir. Vous l'avez tué. Il s'assit brusquement dans son lit et éprouva une vague de vertige. Il serra les dents et la laissa passer. Sa plaie à la jambe l'élançait à l'intérieur du pansement. Les chirurgiens du camp avaient bien travaillé. Son père aurait été satisfait. Le camp, à l'extérieur, lui paraissait beaucoup trop silencieux. Après l'avoir couvert de louanges et de réactions enthousiastes, les hommes du pont 4 étaient allés rejoindre l'armée pour son expédition, ainsi que les autres équipes qui allaient porter les ponts pour elle. Seul un petit groupe du pont 4 resterait en arrière pour protéger le roi. Caladin tendit la main dans le noir et chercha à tâtons près du mur jusqu'à trouver sa lance. Il s'en empara, puis se hissa et se leva. Une douleur immédiate lui traversa la jambe et il serra les dents, mais ce n'était pas si pénible. Il avait pris de l'écorce de brastron contre la douleur, et elle faisait effet. Il avait refusé la mousse ardente que les chirurgiens avaient voulu lui donner. Son père détestait utiliser cette substance qui créait un effet d'accoutumance. Caladin se dirigea péniblement vers la porte de sa petite chambre, puis l'ouvrit et sortit à la lumière du soleil. Il s'abrita les yeux et balaya le ciel du regard. Pas encore de nuages. La saison des pleurs, la pire partie de l'année, commencerait au cours de la journée du lendemain. 4 semaines de pluie incessante et de temps maussade. Comme c'était une année des Lumières, il n'y aurait même pas de tempête majeure en plein milieu. Un supplice. Caladin brûlait de sentir la tempête en lui. Elle aurait éveillé son esprit, lui aurait donné envie d'agir. « Hé, Gancho !» appela Lopen, qui s'approcha depuis le feu près duquel il était assis. « Vous avez besoin de quelque chose ?»« Allons regarder partir l'armée. »« Vous n'êtes pas censé marcher, je crois ?»«
Ça ira, » répondit Caladin, clopinant à grand-peine.
Lopen se précipita pour l'aider et se plaça sous son bras pour l'aider à soulager sa jambe blessée.
« Vous ne voudrez pas briller un peu, Gon ?»
demanda Lopen tout bas,
« pour guérir le problème. »
Il avait préparé un mensonge, une histoire selon laquelle il ne voulait pas alerter les chirurgiens en guérissant trop vite. Il ne parvint pas à le formuler, pas face à un membre du pont 4. « J'ai perdu ce pouvoir, Lopen, » dit-il tout bas, « s'il m'a quitté. » Le Herdasien maigre garda un silence inhabituel.
« Eh bien, » déclara-t-il enfin, « vous devriez peut-être lui acheter quelque chose de joli. »
Acheter quelque chose de joli à une sprenne?
Ben ouais, par exemple, je ne sais pas, une jolie plante ou alors un nouveau chapeau. Oui, un chapeau. Ça ne vous coûterait peut-être pas cher. Elle est petite. Si un tailleur essaie de vous faire payer plein pot pour un si petit chapeau, filez-lui la dérouillée qu'il mérite.
C'est le conseil le plus grotesque qu'on m'ait jamais donné.
Vous devriez vous enduire de curry et aller vous balader dans le camp en chantant des berceuses manche-cornes.
Kaladin se tourna vers Lopen, incrédule.
« Quoi ?»«
Vous voyez, maintenant, cette histoire de chapeau est le deuxième conseil le plus grotesque qu'on vous ait jamais donné. Alors vous devriez essayer. Les femmes aiment les chapeaux. J'ai une cousine qui en fabrique, je peux lui demander. Vous n'aurez peut-être même pas besoin du chapeau lui-même, simplement du spren du chapeau. Ça le rendra encore moins cher. »
Vous avez une manière bien à vous d'être bizarre, Lopen.
Ben oui, Igon, forcément. Il n'y en a qu'un seul comme moi.
Ils continuèrent à traverser le camp. Nom des foudres, que cet endroit semblait vide. Ils longèrent des rangées de baraquements déserts. Kaladin marchait prudemment, soulagé d'avoir Lopen pour l'aider. Mais c'était épuisant malgré tout. Il n'aurait pas dû marcher sur cette jambe. Les mots de son père, des mots de chirurgien, remontèrent depuis les profondeurs de son esprit. Muscles déchirés, pense la jambe, protège-la contre l'infection et empêche le sujet d'appuyer son poids dessus. Une aggravation de la déchirure pourrait conduire à une boiterie permanente, ou pire encore.
« Vous voulez qu'on se procure un palanquin ?» demanda Lopen.
« C'est pour les femmes. »«
Il n'y a rien de mal à être une femme, Gancho !» répondit Lopen. « J'en ai dans ma famille !»
Évidemment que... Il s'interrompit en voyant le rictus de Lopen. Foudre de Herdazien. Combien de phrases prononçait-il dans le but délibéré de paraître obtus? Kaladin avait entendu des hommes raconter des plaisanteries sur la stupidité des Herdaziens. Mais Lopen les battait nettement en éloquence. Bien entendu, la moitié des plaisanteries de Lopen parlait elle-même des Herdaziens. Elle semblait particulièrement l'amuser. Tandis qu'ils approchaient des plateaux, un silence de mort céda la place à la rumeur sourde de milliers de gens rassemblés dans un espace restreint. Kaladin et Lopen se dégagèrent enfin des rangées de baraquements pour émerger sur la terrasse naturelle qui surplombait directement le terrain de parade qui débouchait sur les plaines brisées. Des milliers de soldats y étaient réunis, lanciers formant des blocs immenses, archers pâles iris aux rangs plus clairsemés, officiers qui caracolaient à cheval dans leur armure scintillante. Kaladin eut un hoquet étouffé.
« Qu'y a-t-il ? »
demanda Lopen. « C'est ce que j'ai toujours pensé que je trouverais. »«
Quoi donc ? Aujourd'hui ?»«
Quand j'étais un jeune homme en Aletkar, » répondit Kaladin avec une émotion inattendue. « Quand je rêvais de la gloire associée à la guerre, c'était ça que j'imaginais. » Il ne s'était pas représenté les jeunes pousses et les soldats à peine compétents qu'Amara m'avait formés en Aletkar. Pas plus qu'il n'imaginait alors les brutes grossières, quoique efficaces, de l'armée de Sadeas, ni les équipes d'intervention rapide des attaques de plateau de Dalinar. C'était ça qu'il avait imaginé. Une armée entière, déployée pour une marche grandiose. Les lances brandies bien haut, les bannières claquant au vent, les tambours et trompettes, les messagers en livrée, les scribes à cheval, et même les spiricantes du roi dans leur propre carré isolé, cachés au regard par des murs de tissu que l'on transportait sur des piquets. Kaladin connaissait désormais la réalité du combat. Il n'y était pas question de gloire, mais d'hommes étendus à terre en train de hurler et de se débattre, empêtrés dans leurs propres viscères. D'hommes de pont jetés contre un mur de flèches, ou de Parchendi abattu tandis qu'il chantait. Pourtant, en cet instant, Kaladin s'autorisa de nouveau à rêver. Il accorda à son alter ego plus jeune, encore présent au plus profond de lui, le spectacle qu'il avait toujours imaginé. Il fit comme si ses soldats se préparaient à quelque chose de formidable plutôt qu'à un massacre inutile de plus.
« Hé, il y a vraiment quelqu'un qui vient !» déclara Lopen. « Regardez !»
Près des bannières, Dalinar n'avait été rejoint que par un seul haut prince, Royon. Cependant, comme Lopen le signalait, une autre armée, ni tout à fait aussi grande ni bien organisée, se dirigeait vers le nord le long du vaste chemin qui longeait la bordure est des camps de guerre. Un autre haut prince, au moins, avait répondu à l'appel de Dalinar. « Allez trouver le pont 4, » dit Kaladin. « Je veux regarder les hommes partir. »
« Sébarial ?» demanda Dalinar. « Les hommes de Sébarial se joignent à nous ?»
Royon, assis en selle, émit un grognement et se tordit les mains comme s'il souhaitait les laver.
J'imagine qu'on devrait se réjouir d'avoir du soutien, quel qu'il soit.
C'est Barial, répéta Dalinar, abasourdi. Il n'envoyait même pas de soldats lors des attaques de plateaux les plus proches, où il n'y avait aucun risque d'affronter des Parshendi. Pourquoi en envoyer maintenant ? Royon secoua la tête et haussa les épaules. Dalinar fit faire demi-tour à Vaillant, puis trotta en direction du groupe en approche, imité par Royon. Ils dépassèrent Adoline qui chevauchait juste derrière eux en compagnie de Shallan, côte à côte, de ses gardes et de son escorte. Rhaenarin, bien entendu, se trouvait avec les hommes de pont. Shallan montait l'un des propres chevaux d'Adoline, un ongre menu que Sanhardi dominait de toute sa taille. Shallan portait une robe de voyage dans le style de celle des messagères, fendue devant et derrière jusqu'à la taille. Elle portait un caleçon en dessous, qui n'était rien de plus qu'un pantalon de soie, mais les femmes aimaient lui donner d'autres noms. Derrière eux, chevauchait un large groupe d'érudites et de cartographes de Navani, parmi lesquels se trouvait Izazik, l'ardent qui était le cartographe royal. Il faisait circuler la carte que Shallan avait dessinée, et Izazik avançait à cheval sur le côté, menton levé, comme pour ignorer avec insistance la façon dont les femmes louaient la carte de Shallan. Dalinar avait besoin de toutes ces érudites, mais il aurait préféré qu'il n'en soit pas ainsi. Chaque scribe qui l'amenait était une vie de plus qu'il risquait. La présence de Navani elle-même ne faisait qu'aggraver les choses. Il ne pouvait pas rejeter ses arguments. « Si vous pensez que c'est assez sûr pour emmener la jeune fille, alors ça l'est aussi pour moi ?» Tandis que Dalinar avançait vers la procession de Sébarial, Amaram s'approcha de lui à cheval, vêtu de sa cuirasse, avec sa cape dorée qui flottait derrière lui. Il possédait un excellent cheval de guerre, de la race massive que les Chinovs utilisaient pour tirer de lourds chariots. Malgré tout, il ressemblait à un poney à côté de Vaillant. « Est-ce bien Sébarial ?» demanda Amaram en désignant l'armée en approche. « Apparemment. Faut-il que nous le renvoyions ? Pourquoi ferions-nous ça ?»« Il est indigne de confiance, » répondit Amaram. « Il tient parole, pour autant que je le sache, » répondit Dalinar. C'est plus que je ne peux en dire pour la plupart. Il tient parole parce qu'il ne promet jamais rien. Dalinar, Royon et Amaram rejoignirent Sébarial au trot. Ce dernier sortit d'une voiture à l'avant de l'armée. Une voiture, pour une procession de guerre. En tout cas, ça ne ralentirait pas Dalinar davantage que tous ses scribes. Peut-être aurait-il même dû en fait préparer quelques voitures de plus. Ce serait une bonne chose de permettre à Navani de voyager confortablement quand les journées se feraient longues. « C'est Barial ?» demanda Dalinar. « Dalinar !» répondit l'homme grassouillet en s'abritant les yeux. « Vous paraissez surpris. »« Je le suis. »« Ah, j'avais toutes mes raisons de venir. N'êtes-vous pas d'accord, Palona ?» Dalinar distinguait à peine la femme assise dans la voiture, vêtue d'un énorme chapeau à la mode et d'une robe élégante. « Vous avez amené votre maîtresse ? Sans qui, Dalinar ?»« Eh bien oui, pourquoi pas. Si nous échouons là-bas, je serai mort et elle se fera renvoyer. Elle a insisté de toute manière. Foudre de bonne femme. » Sébarial alla se placer juste à côté de Vaillant. « J'ai une intuition à votre sujet, mon vieux Dalinar. Je crois qu'il est sage de rester près de vous. Il va se passer quelque chose là-bas dans les plaines, et des occasions vont se présenter d'elles-mêmes. » Royon renifla. Royon, lui lança Sébarial, vous ne devriez pas être en train de vous cacher quelque part sous une table ?
Je devrais peut-être, ne serait-ce que pour m'éloigner de vous.
Sébarial éclata de rire. Bien dit, vieille tortue. Peut-être ce voyage ne sera-t-il pas si assommant, en fin de compte. Allons-y, dans ce cas. En route vers la gloire et autres bêtises du même genre. Si nous trouvons des richesses, rappelez-vous que j'ai droit à ma part. Je suis arrivé avant Aladar. J'espère bien que ça compte.
Avant ?
Répéta Dalinar surpris. Il se retourna pour regarder en direction du camp de guerre qui bordait le sien du côté nord. Là, une armée portant les couleurs d'Aladar, blanc et vert foncé, avançait en masse dans les plaines brisées. Alors ça, commenta Amaram. « Je ne m'y attendais vraiment pas. »«
Nous pourrions tenter une prise de pouvoir, » suggéra Yalaï.
Sa déesse se retourna sur sa selle en direction de son épouse. Leurs gardes s'éparpillaient autour d'eux dans les collines, assez loin pour ne pas entendre les propos du haut prince et de sa femme, tandis qu'ils profitaient d'une inoffensive promenade dans les collines. En réalité, ils avaient voulu étudier de plus près les développements de Sébarial de ce côté-ci, à l'ouest des camps de guerre, où ils mettaient en place des cultures à grande échelle. Yalai regardait droit devant elle en chevauchant. Dalinar doit être parti du camp, en même temps que Royon, son unique partisan. Nous pourrions nous emparer du pinacle, exécuter le roi et prendre le trône. Sa déesse fit faire demi-tour à son cheval pour se tourner vers l'est, en direction des camps de guerre. Il distinguait tout juste l'armée de Dalinar qui se rassemblait au loin dans les plaines brisées. Une prise de pouvoir. Une dernière étape. Une gifle à la face du vieux Gavilar. Il allait le faire. Non des foudres. Il allait le faire. Sauf qu'il n'en avait pas besoin. Dalinar s'est engagé dans cette expédition idiote, déclara sa déesse. Il sera bientôt mort, cerné et détruit dans ces plaines. Nous n'avons pas besoin d'un coup d'État. Si j'avais su qu'il allait réellement faire ça, nous n'aurions même pas eu besoin de votre assassin. Yalai détourna le regard. Son assassin avait échoué. Elle estimait qu'il s'agissait d'une grave faute de sa propre part, bien que le plan ait été mis en œuvre avec exactitude. Ces choses-là n'étaient jamais certaines. Malheureusement, à présent qu'ils avaient essayé et échoué, ils allaient devoir faire attention à... Sa déesse fit de nouveau tourner sa monture, pensif, en voyant un messager approcher à cheval. Les gardes autorisèrent le jeune homme à passer, et il tendit une lettre à Yalai. Quand elle la lut, son expression s'assombrit. « Ça ne va pas te plaire, » déclara-t-elle en relevant la tête. D'un coup de pied, Dalinar mit Vaillant en marche pour traverser le paysage en trombe, poussant des plantes surprises à se réfugier dans leur terrier. Il dépassa ses soldats en quelques minutes de chevauchée acharnée et approcha de la nouvelle armée. Aladar s'y tenait à cheval, embrassant ses troupes du regard. Il portait un uniforme à la mode, noir avec des rayures bordeaux sur les manches et une cravate foulard assortie au niveau du cou. Des soldats s'agglutinaient autour de lui. Il possédait l'une des plus grandes armées dans les plaines, non des foudres. Si les effectifs de Dalinar se trouvaient réduits, l'armée d'Aladar serait peut-être bien la plus grande. C'était également l'un des plus fervents partisans de sa déesse.
Comment allons-nous procéder, Dalinar ? Demanda Aladar tandis que Dalinar approchait au trot. Y allons-nous chacun seul, en traversant différents plateaux pour nous retrouver plus loin ? Ou marchons-nous en formant une immense colonne ?
Pourquoi ? S'enquit Dalinar. Pourquoi êtes-vous venu ?
Avec toute la passion que vous avez mise à argumenter depuis le départ, vous faites mine de vous étonner que quelqu'un vous ait écouté ?
Pas quelqu'un en général, vous en particulier. Aladar pinça les lèvres et se tourna enfin pour soutenir le regard de Dalinar.
Royon et Sébarial, les deux plus grands lâches d'entre nous, partent en guerre. Vais-je rester en arrière en les laissant chercher à accomplir le pacte de vengeance sans moi ?
Les autres hauts princes semblent s'en satisfaire.
Je les soupçonne d'être plus doués que moi pour se mentir.
Soudain, toute la véhémence des protestations d'Aladar, au premier plan de la faction qui s'opposait à Dalinar, prit une couleur différente. Il protestait pour se convaincre lui-même, songea Dalinar. Il craignait depuis le début que j'ai raison.
Sa déesse n'en sera pas ravie, répondit Dalinar.
Sa déesse peut aller aux foudres. Je ne lui appartiens pas.
Aladar joua un moment avec ses rênes.
Il aimerait bien, pourtant. Je le perçois dans les accords qu'il m'oblige à conclure, les couteaux qu'il place lentement contre la gorge de tout le monde. Il voudrait que nous soyons tous ses esclaves quand tout ça sera terminé.
Aladar, répondit Dalinar en poussant son cheval pour qu'il aille se placer à côté du sien, de sorte que les deux hommes puissent se faire directement face. Puis il soutint le regard d'Aladar.
Dites-moi que ce n'est pas Sadeas qui vous a incité à faire ça. Dites-moi que ça ne fait pas partie d'un nouveau complot destiné à m'abandonner ou à me trahir.
Aladar sourit.
Si c'était le cas, vous croyez que je me contenterais de vous le dire ?
Je souhaite entendre une promesse de vos propres lèvres. Et vous vous fierez à cette promesse? Qui avez-vous gagné, Dalinar, quand Sadeas vous a exprimé son amitié? Une promesse, Aladar. Ce dernier croisa son regard. Je crois que les propos que vous tenez au sujet d'Aledkar sont naïfs dans le meilleur des cas et clairement impossibles. Ces illusions ne sont pas un signe de folie comme Sadeas voudrait nous le faire croire. Simplement les rêves d'un homme qui veut désespérément croire à quelque chose d'idiot. L'honneur est un terme que l'on applique aux actions d'hommes du passé, dont la vie a été soigneusement nettoyée par les historiens. Il hésita. Seulement, je ne sais si ça fait de moi l'égal des 10 fantasques d'Alinar, mais je regrette que ces histoires ne puissent être vraies. Je suis venu pour moi-même, pas pour Sadeas. Je ne vous trahirai pas. Même si Aledkar ne peut jamais devenir ce que vous souhaitez, nous pouvons au minimum terrasser les Parchendi et venger ce vieux Gavilar. C'est la chose la plus juste à faire. Dalinar hocha la tête. Je pourrais très bien mentir, reprit Aladar. Mais ce n'est pas le cas. Comment le savez-vous? En toute franchise, je n'en sais rien. Mais si tout ça doit fonctionner, je vais devoir me fier à quelques-uns d'entre vous. Dans une certaine mesure, ils ne se placeraient plus jamais dans une position similaire à celle de la tour. Quoi qu'il en soit, la présence d'Aladar signifiait que cette incursion était réellement possible. Ensemble, tous les quatre, ils battraient certainement les Parchendi en nombre, même s'ils ignoraient dans quelle mesure on pouvait se fier à l'estimation que les scribes avaient faite de leurs effectifs. Ce n'était pas la grande coalition de tous les hauts princes que Dalinar avait souhaité, mais, même avec l'avantage que les gouffres conféraient aux Parchendi, ce serait peut-être suffisant. « Nous allons marcher ensemble, » déclara Dalinar, doigt tendu. « Je ne veux pas que nous nous dispersions. Nous allons rester sur des plateaux proches les uns des autres, ou sur le même quand c'est possible. Et vous allez devoir laisser vos parches derrière vous. » « C'est une exigence inhabituelle, » répondit Aladar, pensif. « Nous allons marcher contre leurs cousins, » expliqua Dalinar. « Mieux vaut ne pas courir le risque qu'ils se retournent contre nous. » « Mais jamais ils... »« Bah, comme vous voulez. C'est envisageable. » Dalinar hocha la tête et tendit la main vers Aladar, tandis que Royon et Amaram, derrière lui, arrivaient enfin au trot. Dalinar les avait devancés, surveillant. « Merci, » dit Dalinar à Aladar. « Vous croyez vraiment à tout ça, n'est-ce pas ?»« Oui. » Aladar tendit la main, mais hésita. « Vous êtes bien conscient que je ne suis pas immaculé. J'ai du sang sur les mains, Dalinar. Je ne suis pas le chevalier parfait et honorable pour lequel vous semblez vouloir me prendre. »« Je sais bien que non, » répondit Dalinar en prenant sa main. « Mais moi non plus. Pourtant, nous allons devoir faire l'affaire. » Ils échangèrent un signe de tête, puis Dalinar fit tourner Vaillant et rejoignit sa propre armée au trot. Royon se plaignit d'avoir mal aux cuisses après avoir galopé sur toute cette distance. La chevauchée à venir ne serait guère agréable pour lui. Amaram vint se placer à côté de Dalinar. « D'abord Sébarial, puis Aladar. Vous semblez avoir la confiance facile aujourd'hui, Dalinar. Voulez-vous que je les rejette ? Imaginez comment cette victoire serait spectaculaire si nous l'accomplissions seuls. J'espère que nous sommes au-dessus de ce genre de vanité, mon vieil ami, » répondit Dalinar. Ils chevauchèrent un moment et dépassèrent de nouveau Adoline et Chalan. Dalinar balaya son armée du regard et remarqua quelque chose. Un homme de haute taille, vêtu de bleu, était assis sur une pierre au milieu des gardes du corps du pont 4. À propos de fantasques... « Suivez-moi, » dit Dalinar à Amaram. Ce dernier laissa le cheval de Dalinar passer devant le sien. « Je crois que nous devrions aller nous occuper de... »« Venez !» insista sèchement Dalinar. « Je veux que vous parliez à ce jeune homme, afin que nous puissions mettre fin aux rumeurs et aux propos qu'il tient à votre sujet. Ils ne feront de bien à personne. »« Entendu !» répondit Amaram en le rattrapant. Kaladin se trouvait debout au milieu des hommes de pont, malgré sa jambe blessée, lorsqu'il remarqua Adoline et Chalan qui passaient près de là à cheval. Il les suivit du regard. Adeline montait son riche adium au sabot massif et Chalan un alezan de taille plus modeste. Elle était superbe. Kaladin était disposé à le reconnaître, ne serait-ce que pour lui-même. Cheveux roux flamboyants, sourire facile. Elle venait de dire quelque chose d'intelligent. Kaladin l'entendait presque. Il attendit, espérant qu'elle se tournerait vers lui et croiserait son regard à travers cette courte distance. Elle n'en fit rien. Elle continua à chevaucher et Kaladin se sentit parfaitement idiot. Une partie de lui voulait haïr Adeline parce qu'il retenait l'attention de Chalan. Mais il s'aperçut qu'il n'y parvenait pas. En réalité, il appréciait Adeline. Et ces deux-là allaient bien ensemble. Ils étaient bien assortis. Ça, peut-être que Kaladin pouvait le haïr. Il se rassit sur un rocher et baissa la tête. Les hommes de pont se rassemblèrent autour de lui. Avec un peu de chance, il n'aurait pas vu Kaladin suivre Chalan du regard, s'efforçant d'entendre sa voix. Rhaenarin se tenait debout, comme une ombre, à l'arrière du groupe. Les hommes de pont commençaient à l'accepter, mais ils semblaient toujours très mal à l'aise en leur présence. Cela dit, ils semblaient mal à l'aise en présence de la plupart des gens. « Il faut que je lui reparle de sa maladie », songea Kaladin. Quelque chose lui semblait étrange au sujet de cet homme et de l'explication qu'il donnait de son épilepsie.
« Pourquoi êtes-vous là, mon capitaine ?»
demanda Bisig, qui attira de nouveau l'attention de Kaladin sur les autres hommes de pont. « Je voulais vous regarder partir, » dit Kaladin en soupirant. « Je pensais que vous seriez content de me voir. »«
Vous êtes comme un enfant, » répliqua Rock en agitant un doigt épais en direction de Kaladin. « Que feriez-vous, grand capitaine béni des foudres, si vous surpreniez un de ces hommes-là à marcher avec jambes blessées? Vous feriez battre cet homme, une fois qu'il serait guéri, bien sûr.
« Je croyais, » commenta Kaladin, « que j'étais votre commandant. »«
Non, pas possible, » répondit Teft.
« Notre commandant aurait la présence d'esprit de rester au lit. »«
Et de manger beaucoup ragoût, » ajouta Rock. « Je vous ai laissé ragoût à manger pendant mon absence. »«
Vous participez à l'expédition ?» demanda Kaladin en regardant le grand manche-corne. « Je croyais que vous regardiez juste les hommes partir. »
« Vous ne souhaitez pas vous battre. Qu'allez-vous faire là-bas »«
Il faut bien que quelqu'un leur prépare à manger, »
répondit Rock.
« Cette expédition, elle va prendre des jours. Je refuse de laisser mes amis à la merci des chefs du camp. Ah, la nourriture qu'ils préparent sera faite entièrement de céréales et de viande spirigantée. Ça goûte les crémons. Il faut que quelqu'un y aille avec les bonnes épices. »
Kaladin leva les yeux vers le groupe d'hommes songeurs. « Très bien, » dit-il. « Je vais rentrer. Nom des foudres, je... » Pourquoi les hommes de pont s'écartaient-ils ? Rock regarda par-dessus son épaule, puis éclata de rire et recula.
« Maintenant, nous allons voir ce que c'est que de vrais ennuis. »
Derrière eux, Dalinar Colin descendait de selle. Kaladin soupira, puis fit signe à Lopun de l'aider à se tenir debout afin qu'il puisse saluer correctement. Il parvint à se redresser, s'attirant ainsi un regard noir de Teft, avant de remarquer que Dalinar n'était pas seul. Amaram. Kaladin se crispa et s'efforça de conserver un visage inexpressif. Dalinar et Amaram approchèrent. La douleur sembla s'apaiser dans la jambe de Kaladin et, pour l'heure, il ne vit plus que cet homme. Ce monstre, vêtu de la cuirasse que Kaladin avait remportée, avec une cape dorée flottant derrière lui, ornée du symbole des chevaliers radieux. « Contrôle-toi, » se dit Kaladin. Il parvint à ravaler sa fureur. La dernière fois qu'elle avait pris le dessus, il avait gagné plusieurs semaines de prison.
« Vous devriez vous reposer, soldat, » dit Dalinar.
« Oui, mon général, » répondit Kaladin. « Mes hommes me l'ont déjà bien fait comprendre. »«
Dans ce cas, vous les avez bien formés. Je suis fier qu'ils m'accompagnent lors de cette expédition. »
Teft salua.
« Si vous courez un risque, Clarissime, ce sera là-bas, dans les plaines. Nous ne pouvons pas vous protéger si nous attendons ici. »
Kaladin fronça les sourcils, soudain conscient d'une chose. « Scar est ici. Teft aussi. »
Alors qui surveille le roi ?
Nous nous en sommes occupés, mon capitaine, répondit Teft. Le clarissime Dalinar m'a demandé de laisser notre meilleur élément derrière nous, avec une équipe qu'il aura lui-même choisie. Ils vont surveiller le roi.
Leur meilleur élément ?
Un grand froid l'envahit. Moash. On avait chargé Moash de la sécurité du roi, avec une équipe de son propre choix. Bourrasque.
Amaram, reprit Dalinar en faisant signe au clarissime d'approcher. Vous me dites n'avoir jamais vu cet homme avant d'arriver dans les plaines brisées. Est-ce exact ?
Kaladin croisa le regard d'un meurtrier.
En effet, répondit Amaram. Et son affirmation selon laquelle vous lui avez pris votre lame et votre cuirasse,
demanda Dalinar.
Clarissime, répondit Amaram en prenant Dalinar par le bras. J'ignore si ce garçon a reçu un coup à la tête ou s'il est simplement en recherche d'attention. Peut-être a-t-il servi dans mon armée, comme il l'affirme. Il porte en tout cas la marque d'esclave correspondante. Mais ses affirmations à mon sujet sont, de toute évidence, grotesques.
Dalinar hocha la tête pour lui-même, comme s'il s'était attendu à tout ça.
Je crois que des excuses s'imposent. Kaladin luttait pour rester debout, car sa jambe lui semblait faible. Ce serait donc là son ultime punition, présenter des excuses publiques à Amaram. Une humiliation supérieure à toutes les autres.
Je... commença Kaladin.
Pas vous, mon garçon. Le coupa Dalinar d'une voix douce.
Amaram se retourna, sa posture soudain plus alerte, comme celle d'un homme qui se prépare au combat.
Vous ne croyez tout de même pas à ces affirmations, Dalinar ?
Il y a quelques semaines, répondit Dalinar, j'ai reçu au camp la visite de deux hommes très particuliers. Le premier était un serviteur de confiance venu de Kolinar en secret, porteur d'une précieuse cargaison. L'autre était cette cargaison. Un fou arrivé aux portes de Kolinar, muni d'une lame d'éclat.
Amaram pâlit et recula, levant la main vers son flanc.
J'ai demandé à mon serviteur, poursuivit calmement Dalinar, d'aller boire avec vos gardes personnels. Il en connaissait un certain nombre, et de parler d'un trésor dont le fou affirmait qu'il était resté caché des années à l'extérieur du camp de guerre. Sur mes ordres, il a ensuite placé la lame du fou dans une grotte toute proche, après quoi il a attendu.
Il est en train d'invoquer sa lame, songea Kaladin en regardant la main d'Amaram. Kaladin voulut lui-même s'emparer de son couteau, mais Dalinar levait déjà la main. Une brume blanche se solidifia entre les doigts de Dalinar et une lame d'éclat y apparut, la pointe contre la gorge d'Amaram. Plus large que la moyenne, elle évoquait la forme d'un fendoir. Une lame se forma dans la main d'Amaram la seconde d'après, une seconde trop tard. Il écarquilla les yeux en fixant cette lame argentée contre sa gorge. Dalinar avait une lame d'éclat.
« Je me suis dit, reprit Dalinar, que si vous aviez réellement été disposé à tuer pour une lame, vous seriez certainement disposé à mentir pour une deuxième. » Ainsi donc, après avoir appris que vous étiez vous-même allé discrètement rendre visite à ce fou, je vous ai demandé d'enquêter sur ses affirmations. J'ai laissé largement le temps à votre conscience de se décharger, par respect pour notre amitié. Quand vous m'avez dit n'avoir rien trouvé, alors que vous aviez en réalité pris cette lame, j'ai compris la vérité.
Comment ? Siffla Amaram en regardant la lame que tenait Dalinar. Comment l'avez-vous récupéré ?
Je l'avais retiré de la grotte. Mes hommes la gardaient en sécurité.
Je n'allais pas risquer de la perdre simplement pour découvrir la vérité, répondit froidement Dalinar. Je me suis lié avec cette lame avant que nous la cachions.
La semaine où vous étiez malade, comprit Amaram.
Oui.
Damnation. Dalinar exhala avec un bruit sifflant entre ses dents.
Pourquoi, Amaram, vous plus que les autres, j'aurais cru. Bah.
Dalinar resserra les doigts sur son arme en faisant blanchir ses jointures. Amaram leva le menton,
comme s'il approchait son cou de la pointe de la lame d'éclat. « Je l'ai fait, » répondit Amaram, « et je recommencerai si c'était à refaire. Les néantifères vont bientôt revenir, et nous devons être assez forts pour les combattre. Ça nécessite des porte-éclats accomplis et entraînés. En sacrifiant quelques-uns de mes soldats, je comptais en sauver beaucoup plus. « Mensonge !» s'écria Kaladin, qui s'avança en titubant. « Vous vouliez simplement cette lame pour vous-même » Amaram le regarda droit dans les yeux. « Je suis désolé pour ce que je vous ai fait ainsi qu'à vos proches. Parfois, des hommes de bien doivent mourir, afin que des objectifs plus élevés soient atteints. » Kaladin sentit un frisson monter en lui, un engourdissement qui se déployait à partir de son cœur. « Il dit la vérité, » comprit-il. « Il croit sincèrement qu'il a fait ce qu'il fallait. » Amaram renvoya sa lame et se retourna vers Dalinar. Et maintenant, vous êtes coupable de meurtre, d'avoir tué des hommes pour votre fortune personnelle. Et comment appelez-vous ça, Dalinar ? Répondit Amaram. Lorsque vous envoyez des milliers d'hommes mourir pour recueillir des cœurs de gemmes, est-ce différent, d'une manière ou d'une autre ? Nous savons tous que parfois, des vies doivent être sacrifiées pour le bien de tous. Retirez cette cape, gronda Dalinar. Vous n'êtes pas un radieux. Amaram la détacha, puis la laissa tomber sur la pierre. Il se détourna et fit mine de s'éloigner. « Non !» s'écria Kaladin, qui se précipita vers lui d'un pas trébuchant. « Laissez-le partir, mon garçon, » dit Dalinar en soupirant. « Sa réputation est brisée. »« Mais il reste un meurtrier. Nous le jugerons de manière équitable après mon retour, » l'assura Dalinar. « Je ne peux pas l'emprisonner. Les porte-éclats sont intouchables à ce niveau, et il s'échapperait de toute manière en se taillant un chemin. Soit on exécute un porte-éclat, soit on lui laisse sa liberté. » Kaladin s'affaissa, et Lopen apparut à son côté pour le soutenir tandis que Teft se plaçait sous son autre bras. Il se sentait épuisé. « Parfois, des vies doivent être sacrifiées pour le bien de tous. » « Merci, » dit Kaladin à Dalinar, « de m'avoir cru. »« Il m'arrive parfois d'écouter, soldat, » répondit Dalinar. « Maintenant, rentrez au camp et reposez-vous. » Kaladin hocha la tête. « Mon général, faites bien attention à vous là-bas. » Dalinar répondit par un sourire sans joie. « Si la chose est possible. » Au moins, j'ai maintenant un moyen de combattre cet assassin, s'il se présente. Avec toutes ces lames d'éclat qui se baladent ces jours-ci, j'ai songé qu'en avoir une moi-même était beaucoup trop logique pour que je l'ignore. Il plissa les yeux et se tourna vers l'ouest. Même si ça me paraît mal, d'une certaine manière, d'en tenir une. C'est étrange. Pourquoi serait-ce le cas? Peut-être que mon ancienne lame me manque simplement. Dalinar renvoya son arme. Allons-y, dit-il en retournant vers son cheval, près duquel il trouva Royon, l'air ébahi, qui regardait Amaram s'éloigner d'un pas furieux, rejoint par sa cinquantaine de gardes personnels. Oui, c'était bien la bannière d'Aladar qui rejoignait celle de Dalinar. Sa déesse la distinguait à travers sa lunette. Il la baissa et resta assis en silence un très long moment. Si long que ses gardes et même son épouse commencèrent à s'impatienter et à sembler nerveux. Mais il n'y avait aucune raison. Il réprima son agacement. « Qu'il meure donc là-bas » dit-il. « Tous les quatre. Yalai, fais-moi un rapport. Je voudrais savoir. Yalai ?» Sa femme sursauta et se tourna vers lui. « Tout va bien ?»«
J'étais en train de réfléchir, » répondit-elle d'un air lointain. À l'avenir, et à ce qu'il va apporter pour nous.
« Il va apporter de nouveau au prince en Aletkar, » répondit sa déesse. « Fais-moi un rapport sur ceux des Clarissimes qui nous ont prêté allégeance et qui pourraient prendre la place de ceux qui vont mourir dans l'expédition de Dalinar. »
Il lança la lunette au messager.
« Ne faisons rien jusqu'à ce qu'il soit mort.
Il semblerait que tout ça, en fin de compte, doive malgré tout finir par la mort de Dalinar aux mains des Parchendi. Aladar peut bien l'accompagner, et que la damnation emporte toute la bande. »
Il fit faire demi-tour à son cheval et se remit en route, tournant résolument le dos aux plaines brisées.